Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation musicale. On te retrouve tout de suite après cette émission, comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons alors l'AEM, l'Association d'enquête et de médiation. Voilà, comme ça, je l'ai dit, parce que les acronymes, faut faire attention aux acronymes, parce qu'on ne les connaît pas tous. On reçoit aujourd'hui Élodie Glise, directrice adjointe chargée de la région sud-ouest de l'AEM, et Aurore Sarro, coordinatrice départementale de l'AEM des Landes. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour, nous allons bien, merci.
Oui, très bien, merci.
Alors on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir votre association, voilà, qu'on ne connaît pas forcément, et puis voilà, ses actions, son fonctionnement. Et on va d'abord écouter le Flash Info national et international, et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et nous retrouvons nos invités, Élodie Glise et Aurore Sarro, donc de l'AEM, l'Association d'enquête et de médiation. Alors mesdames, la tradition ici, pour commencer l'émission, c'est d'avoir une petite trajectoire personnelle de nos invités, qui nous racontent un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie et qui fait que maintenant ils se retrouvent à ce micro. Qui est-ce qui se lance ?
Allez, j'y vais. Donc du coup, moi je suis directrice adjointe en charge de la région sud-ouest de l'association Enquête et Médiation. Ma trajectoire, donc je suis une landaise pure souche, donc du coup, puisque je vis à Mont-de-Marsan. J'ai réalisé mes études à Pau en faisant une fac de droit, un DEUG administratif économique et social, avant de bifurquer vers un diplôme d'état d'assistante de service social. Une fois mon diplôme, durant mes études, j'ai fait un stage en service pénitentiaire d'insertion et de probation, et en mémoire sur la réinsertion des détenus. Et du coup, j'ai découvert un attrait particulier pour le lien entre le travail social et la justice. Et du fait de cet attrait, j'ai postulé dans les associations socio-judiciaires et j'ai intégré l'AEM en 2009.
D'accord.
L'AEM de Mont-de-Marsan. Donc, j'ai participé à la création et à l'arrivée de l'AEM dans les Landes. Voilà. Et donc, du coup, j'ai évolué progressivement en interne puisque j'ai été intervenante socio-judiciaire, puis coordonnatrice et aujourd'hui directrice adjointe sur la région.
Vous avez fait un peu toutes les étapes du travail.
Tout à fait.
Ouais, c'est ce qu'on dit des fois, il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, que les ingénieurs EDF, on leur fait relever les compteurs au début pour faire de la chaîne du travail. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est la réalité, mais je pense que dans votre travail, c'est quand même pas mal de savoir ce qui se passe à tous les étages.
C'est ça, on sait de quoi on parle et on peut accompagner comme ça.
Très bien, merci beaucoup. Alors Aurore, parlez-nous un petit peu de vous, s'il vous plaît.
Oui, alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Déjà, pour commencer, moi je suis dans les Landes depuis 2010. J'arrive de Dordogne, où en Dordogne j'ai exercé dans le commerce jusqu'à mes 30 ans. Je suis arrivée dans les Landes et là j'ai eu une première reconversion professionnelle où j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif en 2010. Et puis j'ai intégré la fonction publique territoriale jusqu'en 2020. Que j'ai quitté la fonction territoriale pour reprendre totalement mes études. Donc j'ai eu une licence en droit, j'ai passé ma licence en droit et mon master en management des ressources humaines. Que j'ai eu donc en 2025 et puis j'ai intégré l'AEM, ça fait un an tout juste.
D'accord, voilà. Alors c'est un choix l'AEM, c'était un choix comment dire éthique, c'était pourquoi vous avez choisi cet endroit ?
Oh, alors, déjà l'annonce, effectivement, quand j'ai terminé mes études, je m'étais donné, parce que c'était extrêmement éprouvant, je m'étais donné 2-3 mois vraiment pour vraiment couper les ponts avec tout ce qui était cérébral, assez cérébral. Oui. Et puis, quand j'ai commencé un petit peu à regarder ce que j'avais envie de faire, ce qui se faisait un peu en termes d'emploi, je suis tombée de suite sur l'AEM, que je ne connaissais pas, pour être honnête. Et puis là, bon, effectivement, la fiche de poste correspondait absolument à tout ce que je recherchais. Le judiciaire, du RH, du management, voilà, le travail d'équipe. Et depuis, en fait, que j'avais terminé les études, je passais sans savoir chaque jour devant cette maison de ville bleue, où ben voilà, je voyais des allers-retours d'enfants, de familles, sans jamais vraiment savoir ce qui s'y passait. Déjà, la maison en elle-même me plaisait. Oui. À chaque fois, j'essayais de regarder un petit peu ce qui se passait dedans.
C'est à CRS ?
Non, c'est à Dax.
À Dax.
Oui, l'avenue Georges Clémenceau.
D'accord.
Petite maison bleue, très belle.
Très bien, ben, merci. Alors moi aussi je ne connaissais pas il y a peu de temps encore cette association. Alors je ne sais plus comment je vous ai trouvé, si c'est en cherchant activement ou si c'est en discutant avec des invités. Alors comme je disais hors antenne, c'est vrai que quand on voit son fonctionnement, sa structure, son importance, etc., on se dit, tiens, c'est pas un truc de l'État, ça, non. C'est une association socio-judiciaire. Donc, c'est pour dire qu'on va faire découvrir ça aux auditeurs, justement, hein, l'ampleur de la tâche qui vous incombe, en tout cas. Alors, parlons donc de l'AEM. Donc, il y a une structure nationale avec des délégations dans les territoires. Hein, ça existe depuis, je crois, 98.
Tout à fait.
Alors, c'est quoi qui s'est passé en 98 pour qu'on fasse cette association ?
Alors, en 1998, deux anciens conseillers pénitentiaires d'insertion de probation ont décidé de quitter la fonction publique et de créer cette association sur Creil, où c'est le siège départemental était pendant de nombreuses années avant d'arriver à CRS. Mmh. Donc, du coup, l'objectif était de répondre aux demandes des magistrats et de développer une structure associative. L'avantage de l'associative, c'est que du coup, ils pouvaient mettre davantage de sens dans les mesures. Voilà. Donc, ça a été créé par deux anciens conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Et en fait, les magistrats sont souvent mutés. Voilà. Oui. Et à la demande de certains magistrats, de mutations de magistrats, il y a eu du développement progressif sur l'ensemble du territoire français, puisqu'aujourd'hui, il y a une trentaine d'établissements qui couvrent région Hauts-de-France, région Bretagne, région Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, en Corse et donc du coup en Nouvelle-Aquitaine. Mmh. Sachant qu'en Nouvelle-Aquitaine, pour vous donner une idée, nous sommes en Charente-Maritime, en Charente, en Dordogne, en Gironde et dans les Landes.
Oui, c'est un sacré dispositif quand même.
Donc voilà. Donc du coup, cette association, l'objectif, c'est de répondre à toute mission judiciaire qui nous sont confiées par des magistrats. Mmh. Et donc, d'anciens procureurs, les deux anciens procureurs des Landes ont sollicité l'ancien directeur de l'AEM pour compléter le réseau associatif qu'il y avait et répondre à certaines missions pour lesquelles il n'avait pas de réponse pénale sur place et dont l'AEM pouvait répondre. Et donc, du coup, en 2009, l'AEM a créé un siège départemental sur Mont-de-Marsan avec des permanences sur Dax. Et en 2011, avec le déploiement d'un espace rencontre, une antenne locale à Dax a été ouverte en 2011. Et du coup, le siège est à CRS parce qu'il a été... Ça a changé suite à un changement de direction. Voilà. Le siège est arrivé à CRS il y a quelques années.
D'accord. Très bien. Alors, ça représente combien de personnes alors, localement, hein, donc ici, là, sur la section landaise, à peu près. Et puis, quel type de fonction occupe-t-il ?
Alors, du coup, nous avons une dizaine de personnels qui sont embauchés, donc c'est-à-dire qui sont salariés en CDI pour l'ensemble de ce personnel, qui sont soit psychologues, donc on a une psychologue départementale, juriste, travailleur social, sans oublier la direction, la coordination et notre secrétaire départemental. En plus de ce personnel, on travaille avec un réseau de vacataires, c'est-à-dire des psychologues, travailleurs sociaux ou juristes qui sont en libéraux et qui peuvent travailler à l'acte pour nous afin d'éviter de refuser des missions et de pouvoir les rendre dans les délais, mais aussi d'éviter de proposer des contrats trop précaires.
D'accord.
Le fonctionnement, c'est que nous dépendons de subventions, puisque notre fonctionnement financier, c'est des subventions et les frais de justice. Certaines mesures pénales ou civiles nous sont payées directement par la justice. Et ensuite, les dispositifs dont nous allons évoquer aussi en parallèle sont subventionnés par certains partenaires institutionnels comme la CAF, la MSA, l'État aussi, avec la préfecture, des fonds de prévention de la délinquance ou autre. Donc voilà, de notre fonctionnement global.
Ouais, c'est vrai que la CAF et la MSA, c'est des noms qui reviennent souvent hein, pour pas mal d'associations qui font des choses vraiment très utiles sur le territoire. Ça a l'air d'être un peu le nerf de la guerre aussi. Hein. Et alors, est-ce que vous avez des bénévoles aussi en tant qu'association ? Est-ce que vous avez des gens aussi qui interviennent, je ne sais pas, de manière bénévole pour faire certaines tâches ?
Non, les bénévoles sont uniquement les personnes du bureau. D'accord. l'association, mmh. Qui sont plutôt des personnes qui sont des avocats, des mmh. anciens magistrats ou autres. Mais il n'y a pas de bénévoles dans notre association. C'est aussi un choix, mmh. puisque aujourd'hui, il y a besoin aussi de bassins sur l'emploi. Hein, mmh. voilà. Et donc, nous avons fait le choix de professionnaliser. Mmh. Au vu de nos missions, il est important de professionnaliser oui. les choses.
Oui, oui, donc, c'est voilà. sûr.
Donc, nous avons un vacataire qui est ancien gendarme, mais qui est salarié mmh. de l'association.
D'accord. Oui, après, c'est vrai que les fonctions que vous occupez demandent certaines compétences quand même. Hein. On ne peut pas s'improviser. Tiens, je vais donner un coup de main. là, je crois. En plus, il y a des connaissances, je veux dire, j'imagine, légales hein, sur les textes de loi et sur la connaissance fine du fonctionnement de la société. On va faire une première petite pause. On va écouter un petit peu de musique et on va continuer à parler de tout ça. À très vite. Et nous voilà de retour avec Élodie et Aurore, donc l'AEM, l'association d'enquête et de médiation. Alors, on va parler un petit peu de ce que vous faites concrètement. Alors, vous avez une spécificité. En général, on reçoit des associations qui aident les victimes de certaines choses dans la vie. Là, vous travaillez avec les auteurs. Hein, donc ça, c'est une spécificité quand même dont on va parler. Alors, qui est-ce qui vient vous... À qui vous avez affaire et comment est-ce qu'ils arrivent chez vous ?
Alors du coup l'association intervient à deux niveaux, donc effectivement au niveau des auteurs puisqu'on fait des mesures pénales, donc ce sont des personnes qui ont commis des faits qui nous sont envoyés par la justice, mmh. alors soit pour des évaluations, mmh. puisque nous faisons des évaluations dans le cadre d'affaires correctionnelles ou criminelles, oui. Nous sommes en charge d'effectuer des enquêtes de personnalité, mmh. c'est-à-dire de retracer le parcours d'une personne qui va être jugée, notamment en cour d'assises, mmh. Et qui, donc du coup, l'objectif c'est de retracer le parcours à travers le discours de la personne, mais aussi de venir voir comment il est perçu par les autres, mmh. Et c'est dans l'objectif de l'individualisation de la peine.
Oui.
Voilà. Donc ça occupe aussi une grande partie de notre travail, puisque nous travaillons beaucoup avec les juges d'instruction à ce niveau-là. Les juges d'instruction peuvent aussi nous confier des expertises psychologiques pénales, c'est-à-dire mmh. d'évaluer aussi le côté psychologique des auteurs et également des victimes dans mmh. ce cadre-là,
oui.
Pour toujours pouvoir juger au plus juste. Et nous pouvons également mettre en place des mesures de contrôle judiciaire, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est en garde à vue et ne va pas être jugée immédiatement, mmh. ou va aller un certain temps en détention et que son jugement arrivera ultérieurement, le juge des libertés de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider que ces personnes, en fait, dans l'attente de leur jugement, mmh. ne vont pas aller en détention et vont être suivis dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
Oui.
Donc, ils vont avoir un certain nombre d'obligations et d'interdictions.
Oui, c'est quoi ce suivi ? Du coup, ils sont obligés de se rendre tel jour à tel endroit,
donc,
heure,
nous, ou... on est mandaté, l'association, pour assurer ce suivi et rendre compte aux magistrats mmh. du déroulement de la mesure. Donc, notre rôle, il est double. Souvent, je dis que c'est un accompagnement sous contrainte, mmh. puisqu'on doit vérifier leurs obligations, leurs interdictions. Donc, il peut y avoir un pointage en gendarmerie, mmh. il peut y avoir des interdiction de se rendre sur des lieux,
oui.
de rencontrer d'autres personnes. Donc
oui,
ça, notre,
sûr,
nous,
oui.
on va faire des investigations en toute transparence avec les personnes. On va vérifier qu'ils respectent ces obligations. Ils peuvent avoir des obligations de soins. Donc on va les accompagner pour mettre en place ces obligations, mais aussi mmh. pour qu'ils y donnent sens, pour qu'ils adhèrent. Parce que le tout, c'est pas juste d'aller chercher une attestation.
Et oui.
C'est derrière qu'il y a un travail qui se met en place.
Oui.
Et du coup, le travailleur social en charge ou le juriste en charge du contrôle judiciaire au sein de notre association va les accompagner sur tous les axes de la vie dans le cadre de la réinsertion, donc au niveau mmh. de l'emploi, au niveau de la famille, au niveau
oui,
financier
oui.
et autres, mmh. pour que la situation évolue et que le jour du jugement, la personne et sa situation qui a évolué et présente mmh. un maximum de garanties en termes d'insertion et de réinsertion.
D'accord. Alors comme vous disiez, c'est en toute connaissance de la personne en question. Vous n'êtes pas des détectives privés en planque qui prennent des photos
Non. non. Nous recevons la personne en entretien de manière très régulière,
oui.
pour faire le point sur sa situation, ses problématiques et aussi pour l'accompagner. Et lorsqu'il y a une difficulté qui est notée, ils savent dès le début, le cadre est posé dès le début et ils savent qu'on va appeler les gendarmes, mmh. qu'on va prendre attache avec l'association
oui.
d'aide aux victimes ou mmh. les victimes directement pour vérifier s'ils respectent les interdictions. Et s'il y avait un non-respect, ils savent qu'on fait un rapport d'incident au magistrat puisque mmh. le risque pour eux, c'est de retourner, d'aller
oui.
en détention
oui,
s'ils ne
ouais.
respectent pas, puisque mmh. le magistrat, il peut révoquer la mesure.
Alors, il y a un relationnel s'instaure, évidemment, surtout qu'on a des contrôles judiciaires qui peuvent durer des années, des mois, des années. Il y a vraiment un relationnel et c'est une histoire de confiance également, de part et d'autre.
Voilà, c'est ça. Alors, cette partie psychologique est importante. Alors, il y a un dicton que j'aime bien qui me fait rigoler, c'est « on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif ». Et donc, vous êtes obligé d'essayer d'obtenir la coopération de la personne en question. Alors, comment est-ce que ça se passe, ça ? Est-ce que vraiment le côté pédagogique, psychologique, parce que la personne, il faut qu'elle dise « ouais, allez, j'ai fait une connerie, je vais changer » ou « c'est quoi le profil des gens, vraiment ?»
Le profil des gens est divers. Il y a des gens qui, effectivement, vont prendre rapidement conscience de l'acte commis et de l'impact de cet acte commis et sur eux et sur leur environnement. Et d'autres personnes où il va falloir les aider à cheminer, justement. Et c'est pour ça que les obligations de soins, les orientations aussi vers des partenaires de droit commun qu'on va pouvoir faire, même s'ils n'ont pas d'obligation de soins, on peut les orienter vers un psychologue ou vers un médecin, vont faire que ça va être en complément de notre accompagnement, qu'ils vont cheminer. Les entretiens, effectivement, sont des entretiens au cours desquels on va évoquer les faits et aussi le retentissement des faits sur les personnes. Donc ça, c'est vraiment dans le contrôle judiciaire. Après, ça, c'est au sens le plus large, c'est des choses qu'on fait aussi dans les... on est en charge de faire des stages alternatifs aux poursuites dans différentes catégories, on va dire, dans le cadre de violences conjugales, dans le cadre, on appelle des stages de responsabilité parentale, c'est pour des parents qui ont commis des manquements à leurs obligations parentales.
Oui.
Des stages citoyenneté, c'est pour des personnes qui ont commis des faits d'atteinte aux biens ou aux personnes, donc des violences volontaires, des vols, voilà, et des stages citoyenneté environnement, donc en lien avec l'environnement, du coup. Oui. Et donc dans ces stages-là, nous, tous nos stages, ils sont construits de la même façon, c'est-à-dire que c'est des stages de responsabilisation, et c'est aussi ce qui, la philosophie un petit peu de l'association dans la manière de raisonner avec les personnes, on va essayer de leur faire prendre conscience de l'acte commis à travers leur discours. L'avantage des stages, c'est qu'ils sont en groupe et qu'il y a un effet aussi, moi je l'utilise beaucoup ce terme-là, c'est un effet miroir. Ils sont tous là pour des mêmes faits au départ, faits d'atteinte aux biens aux personnes, des faits de violence sur conjoint, et pourtant ils vont les analyser d'une différente façon, ils vont dire ah ben lui c'est plus grave ou pas, et pourtant pénalement parlant ils risquent la même chose. Donc du coup c'est des choses qu'on va leur rappeler, on va leur amener des apports théoriques, mais on va beaucoup se baser sur leur dire, sur leur parcours, de manière à ce qu'ils donnent sens, et que l'objectif principal quand même de notre association au milieu pénal, puisqu'après on parlera de la partie civile, c'est d'éviter la récidive et la prévention de la délinquance.
Bien sûr, du coup,
l'idée, c'est qu'ils raisonnent, ils comprennent, ils donnent sens. Alors, les stages, c'est assez court. Et donc, du coup, à l'issue des stages, on peut aussi individuellement les réorienter vers des partenaires parce qu'ils continuent à vivre avec la victime et que finalement, ils auraient peut-être besoin de travailler au niveau de la thérapie de couple parce qu'ils ont commencé à avoir une émergence sur la violence, sur les mécanismes de la violence. Et ils commencent à se dire que, en fait, c'est tout leur fonctionnement depuis la naissance parce qu'ils ont...
C'est pas évident.
Voilà. Donc, du coup, le travail doit être plus long. Et donc, du coup, on peut les orienter vers le CPCA aussi des Landes, le centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, qui est gratuit et où ils peuvent débuter une prise en charge plus individuelle à ce moment-là. Voilà, l'idée, c'est de travailler aussi avec les partenaires locaux.
Ouais, d'accord, très bien. Bon, on va déjà faire la deuxième pause, écouter le flash info local et on retrouve nos invités pour la suite de cette émission. Ah, Tears for Fears, un peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait du bien de temps en temps. Alors, on va retourner vers nos invités. Donc, on va parler un petit peu des dispositifs qu'on peut retrouver chez vous. Vous parlez de pénal et de civil aussi.
Tout à fait. Donc, effectivement, nous travaillons également en partenariat avec les juges aux affaires familiaux. Les juges aux affaires familiaux sont en charge de trancher, on va dire, sur tout ce qui est contentieux famille et notamment dans le cadre des séparations. Donc, dans le cadre des séparations, les juges peuvent nous saisir pour réaliser des bilans psychologiques, soit d'un membre de la famille, soit de l'ensemble de la famille. Des enquêtes sociales, c'est-à-dire aller voir aussi un petit peu ce qui se passe au domicile, rencontrer de manière assez longue le père, la mère, les enfants, les voir un petit peu en interaction au domicile, vérifier les conditions matérielles aussi, donc faire une évaluation, puisque le juge, lui, il les rencontre, ils sont en conflit, et il n'a pas forcément des éléments complémentaires, donc ils peuvent s'accuser mutuellement de choses, et donc nous, on va faire des investigations pour vérifier un petit peu les éléments matériels et éducatifs, et donner un avis sur dans l'intérêt de l'enfant, puisqu'on travaille toujours dans l'intérêt de l'enfant, c'est ça qui est important, ce qui semblerait le plus adapté adaptée en termes de mode de garde pour l'enfant. Mmh. Résidence alternée, la résidence chez l'un ou chez l'autre, quel droit de visite pour l'autre. Et donc, du coup, dans le cas des droits de visite, depuis 2011, sur Dax, nous avons ouvert, dans les dispositifs un peu particuliers, un espace rencontre. Oui. Donc, l'espace rencontre, c'est un lieu où les personnes, donc dans le cadre de séparation, les juges aux affaires familiaux peuvent nous orienter les personnes pour des temps de rencontre parents-enfants.
Ouais, c'est aussi une zone démilitarisée, c'est une zone blanche où les gens peuvent se rencontrer.
Alors, le parent qui n'a pas la résidence, c'est l'enfant. Ce n'est pas un service de médiation familiale. D'accord. Donc, c'est un temps de rencontre entre un parent qui ne voit plus son enfant et l'enfant, de manière à restaurer, rétablir ou maintenir un lien dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales. C'est systématiquement sur Dax avec deux professionnels. Mmh. Donc, on fait ça dans nos locaux situés au 133 avenue Georges Clémenceau. Il faut savoir que les juges aux affaires familiales peuvent nous envoyer les familles, mais que nous pouvons également recevoir des familles à leur demande, c'est-à-dire qu'un couple se sépare et finalement, par exemple, un des deux parents n'a pas les moyens d'accueillir l'enfant et souhaite maintenir le lien et donc peut nous solliciter, ça s'appelle des mesures conventionnelles.
D'accord.
Et donc du coup, tout couple qui se sépare ou des grands-parents aussi qui n'arrivent plus à avoir leurs enfants peuvent solliciter notre service ou le juge aux affaires familiales pour maintenir un lien.
D'accord. Alors, ces enquêtes sociales jouent rôle de conseil et pas de décision. Vous transportez l'information, mais ce n'est pas vous qui émettez un jugement. Ça passe toujours à la fin par un juge.
C'est ce qu'on dit aux familles. Nous, on travaille avec les éléments qu'on a. On donne un avis, mais on ne décide pas.
Oui.
Et d'ailleurs, entre le moment où on va rendre l'enquête sociale et le moment où il y a l'audience, les parents, par le biais de leur avocat, ont accès à l'enquête sociale, puisqu'il y a un principe du contradictoire. Donc, ils ont accès à l'ensemble des pièces du juge aux affaires familiales. Et donc, du coup, peuvent très bien aussi amener des éléments complémentaires devant le juge aux affaires familiales pour venir montrer une évolution de la situation ou autre. Puis, dans le cadre de l'enquête sociale, on peut aussi les orienter vers les travailleurs sociaux de secteur, leur conseiller de peut-être s'il y a une problème d'addiction et que l'autre parent dit que c'est pas vrai, d'amener des analyses ou autres qu'ils auraient peut-être pas fournies au moment de l'enquête sociale.
Oui, bien sûr,
Donc, du coup, au moment du jugement, de la rencontre avec le juge aux affaires familiales, ils peuvent amener d'autres éléments qui vont venir à engendrer une décision du juge aux affaires familiales.
D'accord. Enfin, l'ensemble de vos dispositifs, ce que vous racontez depuis le début, je me dis des fois, ça doit être un petit peu tendu pour vous. Je parle au terme personnel parce que des auteurs de faits de violence, on peut penser qu'ils sont violents, des problèmes de divorce, etc. On sait que ça peut être aussi très tendu. Comment est-ce que vous gérez ça?
C'est la manière d'aborder les personnes, déjà. Moi, j'ai envie de dire qu'on a un cadre, déjà, qui amène nos missions. Donc, quand on rencontre les personnes, on leur explique dans quel cadre on intervient, l'objectif, en toute transparence. Quand on est transparent avec les gens et ils peuvent poser des questions pour donner sens, une fois qu'ils donnent sens, forcément, c'est plus facile pour eux d'adhérer aux mesures. Effectivement, quand on donne notre avis dans les enquêtes sociales, on fait toujours en sorte d'appeler les parents avant qu'ils découvrent le rapport, de manière à leur expliquer pourquoi, à ce moment-là, on va préconiser plutôt ce mode de garde qu'un autre, de manière à ce qu'avant d'aller chez les affaires familiales, ils peuvent aussi toujours cheminer et soit mener des éléments contradictoires, soit mettre de nouvelles choses en place, ou soit se dire qu'effectivement, au vu des éléments, c'est peut-être ce qui est le plus dans l'intérêt de l'enfant, puisqu'on recentre toujours au niveau du juge aux affaires familiales dans l'intérêt de l'enfant. Et sur les auteurs, j'ai envie de dire, on travaille avec eux, c'est eux qui font le travail, c'est pas nous.
Et puis j'ai envie de dire que notre principale force, je parle en termes d'équipe, en fait c'est qu'on en discute tout entre nous, on est une équipe très soudée, on croise les informations, on utilise beaucoup les moments informels pour, effectivement, comme vous le dites, on a des situations qui peuvent être assez prenantes, auquel cas on est toujours disponible les unes pour les autres pour en parler. Et me concernant, moi, mon soutien, enfin ma famille, j'en parle beaucoup aussi, effectivement. Ouais. Voilà.
Et ça, c'est important, c'est l'esprit de corps. J'en avais discuté avec plusieurs invités, notamment avec la maison de protection des familles, les trois super gendarmettes, vraiment très chouettes, et leur demander parce qu'elles sont quand même confrontées au pire.
Oui.
Voilà.
Oui.
On va pas rentrer dans les détails, mais tout le monde sait de quoi je parle. Et je leur ai posé cette question, mais comment est-ce que vous tenez? Et elle disait, c'est l'esprit de corps, on est entre nous, on rigole, on se soutient, etc.
Tout
et voilà, parce que des fois, comme vous, vous êtes, comment dire, vous êtes confronté au côté obscur de la vie de la société. C'est un peu votre, le milieu dans lequel vous, vous évoluez. Voilà, je peux imaginer que ça peut être un peu pesant des fois. Voilà.
Oui, puis il y a l'expérience et, et les compétences de chacune qui vont faire que aussi, si, voilà, vous parliez du public plutôt pénal, si on voit que quelqu'un n'est pas disposé ou alors qu'il y a une difficulté particulière ce jour-là, on va savoir désamorcer la situation, voire reporter le rendez-vous. Voilà, c'est une façon aussi de pouvoir gérer.
Favoriser un petit peu. Oui. Alors, et ça arrive des fois qu'il y a des gens qui disent non. Et il y a un dispositif, une chose qu'ils sont censés faire, forcés de faire, et du coup, ils sont renvoyés vers le juge, et là, du coup, ils prennent une peine plus concrète, plus d'emprisonnement, ou comment ça se passe? Est-ce que ça arrive d'abord?
Alors, ça peut arriver au point de rencontre qu'il y ait des personnes qui refusent. Souvent, c'est plutôt le parent qui a la résidence qui va refuser d'amener l'enfant. Donc, nous, on lui explique les conséquences. C'est-à-dire qu'il peut aussi avoir une plainte pour non-représentation d'enfant.
Bien sûr,
parce que c'est un droit pour l'autre parent de voir son enfant qui lui est donné.
C'est
une
chose
nous.
Qui arrive.
Donc, là, on rend un rapport. Et effectivement, le juge en tiendra compte dans sa décision, dans l'intérêt de l'enfant. Et au niveau pénal, c'est assez rare. En général, ils viennent. Ils peuvent ne pas vouloir répondre à certaines questions. Donc, on note qu'ils n'ont pas voulu aborder cet aspect ou autre. Ou alors, ils ne se présentent pas du tout. Donc, du coup, on ne sait pas pourquoi, mais c'est rare, en fait. On a quand même accès aux gens.
Bon, c'est bien. Vous avez toujours aussi derrière la tête l'idée de la, comment dire, de la prévention aussi, et pas la répression. Et ça, c'est important.
Oui. Bah, nous, on est dans l'accompagnement. On leur explique l'intérêt. Et tout ce qu'on fait, c'est dans l'objectif qu'il y ait une décision qui soit juste pour eux, qu'elle soit individualisée ou qu'elle soit dans l'intérêt de l'enfant. Donc, voilà.
Bien sûr. Alors évidemment, c'est un sujet de fond, là, on a parlé un peu en antenne, c'est une société qui ne donnerait pas une deuxième chance à quelqu'un qui sort de prison serait très hypocrite, puisque quand on condamne quelqu'un, je sais pas, 5 ans de prison, on l'a pas condamné à perpétuité, donc quand il sort, il faut bien faire quelque chose, on va pas l'envoyer sur une île ou l'enfermer dans quelque chose, donc c'est très important la réinsertion, parce que sans ça, il y aurait pas d'issue pour quelqu'un qui a fait quelque chose un jour.
Effectivement. Alors nous, on travaille plutôt en amont des jugements. Et ça va être plutôt le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui va travailler après le jugement. Mais notre rôle et l'accompagnement est quand même le même, puisque l'idée, c'est de les aider, de les accompagner sur tous les aspects de la vie où ils peuvent rencontrer une problématique, de manière à éviter qu'ils recommettent des faits pour se retrouver à nouveau en difficulté.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est bien pour eux et c'est bien pour la société.
Ouais, voilà. Ah ben, tout à fait. c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on sollicite régulièrement les collectivités locales, puisque lorsqu'on fait des stages de citoyenneté, lorsqu'on fait des stages de prévention des violences conjugales, c'est aussi intervenir auprès du trouble à l'ordre public pour eux. Ça veut dire qu'on va aussi faire prendre conscience à des personnes de la problématique qu'il y a et éviter que ça se reproduise et donc intervenir au niveau des troubles.
Alors, il y a aussi un dispositif un peu particulier, c'est le parcours de sortie de la prostitution. Voilà, alors ça, ça m'a sauté aux yeux quand je regardais ça, parce que ce n'est pas un sujet dont on parle souvent. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça?
Oui. Alors, l'association a été agréée par un arrêté préfectoral. Et donc, du coup, on renouvelle l'agrément à peu près tous les 3 ans. On a agréé depuis 2017 dans le cadre de ce parcours de sortie de prostitution, qui est un dispositif un peu à la marge au sein de l'AEM, puisqu'on est une des rares antennes à le mettre en place sur les Landes. Donc, il faut savoir qu'en avril 2016, pardon, la loi a changé. C'est-à-dire qu'il y a eu un basculement de la loi. Les clients sont devenus auteurs et les prostituées sont devenues victimes.
Voilà, ouais.
Donc c'est un des rares dispositifs où nous on va être un petit peu dans l'accompagnement des victimes.
C'est ça, ouais.
Donc du coup nous on est habilité pour lorsqu'une personne prostituée souhaite sortir de la prostitution, parce qu'elle est en situation de prostitution, elle souhaite sortir de la prostitution, notre rôle ça va être de faire un accompagnement de cette personne. Mais pour pouvoir réaliser cet accompagnement, on va d'abord la rencontrer, faire un point sur sa situation et et sa situation va passer en commission préfectorale. Donc nous, on va présenter son dossier à une commission qui est composée d'élus, de membres du conseil départemental, de membres de l'État, enfin voilà, de plusieurs personnes, et enfin décideront si cette personne peut intégrer le parcours, sachant que le parcours il dure 6 mois, renouvelable plusieurs fois jusqu'à 24 mois tous les 6 mois. Et s'ils acceptent que la personne intègre ce parcours, la personne s'engage à sortir de la prostitution, donc par écrit, à arrêter toute activité prostitutionnelle, et le rôle de notre association, ça va être de l'accompagner au quotidien dans tous les aspects de sa vie, puisque du coup il va y avoir la santé à travailler, il va y avoir la famille, il va y avoir l'emploi, la mobilité aussi par rapport à Hollande, qui est un département très rural, et également le logement, puisque ça peut être aussi problématique. Donc ça, c'est vraiment quand les personnes veulent sortir du parcours, veulent sortir de la prostitution, nous, on va faire cet accompagnement sur 6 mois renouvelables. En parallèle, on fait également de la prévention. D'ailleurs, vous parlez de la MPF, avec qui, sur la maison de protection des familles, pardon, avec qui nous pouvons travailler en prévention, puisque nous participons avec eux à des, au niveau des établissements scolaires, au niveau des élus, au niveau aussi de l'hôtellerie, sur des actions de prévention qu'on va faire auprès des publics pour leur expliquer qu'est-ce que c'est que la prostitution, les différents aspects, les risques, et sensibiliser, y compris les jeunes, sur les différents actes prostitutionnels, les réseaux.
L'hôtellerie, parce que ces choses-là doivent se passer dans certains endroits, forcément. Donc, du coup, il y a la problématique aussi des lieux. Bon, il faut que les gens apprennent à ne pas fermer les yeux aussi. On parlait tout à l'heure, la volonté des fois de mettre les choses sous le tapis, les cacher un petit peu. En général, ce sont des choses que l'on fait dans la vie et c'est pas bien. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. On va faire une dernière pause, encore un petit peu de musique, et on va atteindre la dernière partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec Elodie et Aurore pour la dernière partie de cette émission. Alors, on a encore des choses à parler, notamment, alors vous avez on a parlé de quelques partenaires, on en a évoqué certains, la CAF et le SPIP aussi qui m'intéresse pas mal, on en a parlé hors antenne, c'est des gens que j'aimerais bien recevoir ici, alors donc il se passe un petit peu en amont par rapport à vous. Se place
après jugement. Effectivement, c'est un partenaire pour nous aussi au quotidien, puisque on peut avoir des personnes aussi qui ont commis plusieurs faits et que nous on suit et que suivent. Donc du coup, c'est intéressant aussi de travailler ensemble en partenariat pour dégager des axes communs de travail, que ça ait du sens pour la personne. Il faut toujours que ça ait du sens pour la personne. Et également, eux, ils mettent en place, si vous avez l'honneur de les accueillir, ils mettent en place des aménagements de peine. Et nous, dans ce cadre-là, sur DAX, nous avons un partenariat plus privilégié, puisque dans le cadre des aménagements de peine, on a mis à disposition au sein de nos locaux de l'AEM un appartement où ils peuvent mettre une personne, ça s'appelle un placement extérieur. Donc sur une durée de 6 mois en moyenne, la personne donc va être accueillie dans nos locaux et va être suivie au quotidien par un travailleur social qui va toujours pareil l'accompagner au quotidien pour sa réinsertion, le temps qu'il fasse cet aménagement de peine en lien direct avec le SPIP, puisqu'on rencontre au SPIP du déroulement. Et il y a des rencontres tripartites avec la personne, le chargé de prévention chez nous et le conseiller pénitentiaire d'insertion de probation. Donc, contre un hébergement et un accompagnement proximal, nous travaillons avec le SPIP. D'ailleurs, sur un accompagnement proximal avec la justice, on a également mis en place un suivi judiciaire renforcé dans les Landes. C'est-à-dire que on a, pour des personnes qui souffrent d'addiction et qui sont condamnées, le parquet et les juges des libertés de la détention peuvent nous orienter des personnes. C'est un dispositif vraiment spécifique et c'est la particularité des associations de pouvoir créer des dispositifs un peu sur mesure. On a une chargée de prévention qui fait un accompagnement proximal des personnes, qui va faire des visites à domicile aussi pour intervenir auprès, alors qu'elle est placée sous main de justice la personne, mais pour intervenir auprès de la famille et autres. Et donc c'est un accompagnement sur 6 mois qui est vraiment intense et qui se fait dans les Landes.
Alors le SPIP, alors je le dis, les acronymes, moi-même j'y ai cédé, il faut quand même dire que c'est le service pénitentiaire d'insertion de probation. Alors ça, c'est une émanation de l'État, c'est un service de l'État.
Tout à fait, c'est un service de l'État. voilà. Donc qui suit toutes les personnes placées sous main de justice, qui peut d'ailleurs faire des mesures comme nous faisons, comme les contrôles judiciaires, comme les enquêtes sociales rapides, comme les enquêtes de personnalité. Mais voilà, nous avons des habilitations qui font aussi que les juridictions peuvent nous confier ce type de mesures et permettre au SPIP aussi de se concentrer plutôt sur les accompagnements, que ce soit en milieu carcéral ou hors carcéral. Oui.
Alors en projet aussi, vous avez peut-être un travail sur les violences routières.
Alors il y a un projet qui est en train d'être finalisé avec les deux juridictions des Landes, c'est de développer des stages de sécurité routière, donc c'est-à-dire toujours sous la même base, des stages de responsabilisation pour des personnes qui ont commis des faits en lien avec les délits de la route. Et nous, l'objectif, c'est en travaille avec une association agréée qui est ActiRoute. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de proposer un stage avec du sens. Du sens tant au niveau de la réponse pénale avec une partie juridique que nous, on anime, et aussi autour de la prévention des conséquences animées par notre partenaire.
Oui. Bon, là, je pense que la plupart des auditeurs ont dû se rallier, à mon avis, du départ, dit tiens, on dirait vraiment, une émanation d'un service de l'État, vos actions, parce que c'est tellement important ce que vous faites et ça semble tellement évident que ça devrait exister de toute manière, mais c'est bien que vous soyez là pour le faire. Hein. Encore une fois, mon vieux violon, tout le temps, j'ai les associations, ben voilà, ça prouve encore une fois qu'il y a beaucoup d'associations qui sont vitales. Voilà, je pense que les missions que vous remplissez sont importantes et si personne ne les faisait, ce serait un petit problème quand même, je crois.
Effectivement, et d'ailleurs, je profite de ce moment pour remercier, parce qu'on travaille aussi pour certaines missions qui nous sont déléguées par l'État à travers des subventions et autres. Donc je profite de ce moment pour remercier les partenaires institutionnels et associatifs avec lesquels on travaille, mais aussi l'équipe sans l'implication de notre équipe, on ne pourrait pas faire ça, puisqu'on reste une association avec toutes les difficultés d'une association. Et donc il y a l'implication de l'équipe, de l'ensemble de l'équipe, que je souhaite saluer aujourd'hui.
Voilà, un petit coucou aux copains et aux copines.
Un bon petit clin d'œil à l'équipe, effectivement.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mesdames. Alors, il y a une citation d'Élodie que je n'ai pas donnée, mais on ne naît pas violent, on apprend à le devenir. On peut donc aider à désapprendre à être violent. C'est que c'est malgré, comme je disais, le côté obscur, vous côtoyez, vous gardez une foi en l'humanité et bravo pour ça, mesdames.
L'espoir, oui.
Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et bon retour. Au revoir.
Merci, au revoir.